Avant la méditation de la parole du Seigneur, nous voulons invoquer le Seigneur pour une grâce pour nous tous qui entendrons, pour que nous comprenions comment mettre en pratique dans nos vies et refléter ce règne qui n'a pas de fin. Seigneur, les enfants sont en bas, que tu bénisses les moniteurs et monitrices aussi pour que quelque chose de ta parole touche leur cœur d'une manière adaptée. Et nous te prions maintenant pour nous tous, afin que tu nous fasses les auditeurs selon ton cœur. Et nous te remercions pour ta parole, lumière. Nous te prions que tu bénisses Marc, qui nous redit quelque chose des richesses qu'il a dégagées de ta parole. Amen.
Voilà, bonjour à tous. Les rois et le roi. Le sage face au pouvoir, avec un sous-titre, l'heure du jugement viendra aussi, en voyant prospérer l'injustice. Voilà le sujet facile que Claude m'a confié ce matin. C'est vrai que l'Ecclésiaste est un livre difficile à traiter, et ce n'est pas sans crainte que je me présente devant vous ce matin. En effet, le message que donne le sage dans ce livre est tout en contraste. Il est même parfois intentionnellement, d'après certains commentateurs, contradictoire. Alors, même si je ne suis pas très sage, notre pasteur Claude m'a demandé de traiter ce texte qui parle du rapport au pouvoir, entre autres. Alors, comme vous le savez, je ne suis pas tout à fait neutre face au sujet, et j'ai dû me confronter à cette problématique puisque je fais partie depuis l'été 2011 de l'exécutif, la municipalité de la ville de Puy où j'habite. Alors je vous propose d'examiner quelques extraits de ce chapitre 8 que je lirai dans la version de la traduction œcuménique de la Bible, la TOB. Les commentateurs actuels y voient trois thèmes principaux, qui sont la sagesse, la justice et la joie. Au verset 1, l'auteur aborde directement le thème de la sagesse et pose la question suivante. Qui est comme le sage et sait interpréter cette parole? La sagesse d'un homme illumine son visage et la dureté de son visage en est transformée. Alors la sagesse peut-elle nous transformer ainsi et nous amener à la joie? Dans les versets 16 et 17, l'auteur semble ensuite dire le contraire. Je le cite. « Quand j'eus à cœur de connaître la sagesse et de voir les occupations auxquelles on s'affaire sur terre, j'ai vu toute l'œuvre de Dieu. L'homme ne peut découvrir l'œuvre qui se fait sous le soleil. » Bien que l'homme travaille à la rechercher, mais il sans la découvrir. Et même si le sage affirme qu'il sait, il ne peut la découvrir. L'Ecclésiaste révèle donc les avantages de la sagesse, mais en même temps son constat au bout du compte est, comme il le dit au verset 8 du chapitre 6, « Le sage ne vit pas mieux que le sot ». Le deuxième thème abordé est celui de la justice de Dieu. Au verset 5, l'auteur nous dit que « celui qui observe le commandement ne connaîtra rien de mauvais ». Et au verset 6, « oui, il y a pour chaque chose un temps et un jugement ». Mais une fois de plus, en même temps, au verset 14, il nous dit qu'il y a des justes qui sont traités selon le fait des méchants, et des méchants qui sont traités selon le fait des justes. Et puis, de toute manière, d'après ce qu'il semble dire, il n'y a pas d'alternative, puisqu'il faut observer l'ordre du roi à cause du serment divin et ne pas se presser de s'écarter du roi. Il ne faudrait donc pas contredire le roi, soit le pouvoir en place, ni s'opposer à lui. Le dernier thème qui est abordé dans ce chapitre l'est au verset 15 et c'est celui de la joie humaine. Alors, avec les conclusions qu'il a tirées de ses différentes observations et de ses réflexions, il ne reste à l'Ecclésiaste qu'à faire ce qu'il appelle l'éloge de la joie. Car il n'y a pour l'homme sous le soleil rien de bon, sinon de manger, de boire, de se réjouir. Et cela l'accompagne dans son temps, l'accompagne dans son travail durant les jours d'existence que Dieu lui donne sous le soleil. Profitez des joies de l'existence. En voilà un beau programme. Personnellement, il me convient assez bien, et je pense qu'une bonne majorité d'entre vous s'en accommoderait sans mal s'il n'y avait que ça. Nous vivons dans une société d'abondance et nous possédons à peu près tout ce dont nous avons besoin pour vivre, et même plus, en tout cas au niveau matériel. Les problèmes du monde nous dépassent parfois complètement, et finalement, qu'est-ce qu'on peut bien y faire? Ne sommes-nous pas toujours au temps où l'homme a sur l'homme le pouvoir de lui faire du mal, comme l'Ecclésiaste le dit au verset 9? C'est comme ça. On ne peut rien y changer. Alors autant profiter de la vie et savourer, manger, boire, voyager, consommer et ne pas trop réfléchir. D'ailleurs, les rois ont de tout temps voulu donner à leur peuple deux choses, du pain et des jeux. Offrir juste assez de satisfaction à leurs administrés pour qu'ils ne s'aventurent pas à bousculer ou remettre en question l'ordre établi. Et aujourd'hui, la société de consommation dans laquelle nous vivons ne fonctionne-t-elle pas un peu de la même manière, parfois? Consomme et tais-toi. De toute manière, pas d'autre voie possible. Dieu est mort, le mur de Berlin est tombé, il n'y a plus d'autre horizon. Vrai ou faux? Dans un même temps, en voyant l'état du monde où nous vivons, ne pouvons-nous que consommer et profiter? Cela ne nous mène-t-il pas à une perte complète de valeur et de sens? On peut voir à certaines époques une telle approche désabusée de la vie. Ça arrive par exemple après des périodes de grande détresse, de grande souffrance, comme après la Première Guerre mondiale, dans ce qu'on a nommé la génération perdue, qui a vécu dans ce qu'on a ensuite appelé les années folles. Elle est incarnée, par exemple, peut-être certains d'entre vous l'ont lu, par des romans tels que Gatsby le Magnifique, écrit par l'écrivain américain Scott Fitzgerald. Il y décrit une vie de plaisir, de fêtes perpétuelles, mais qui finalement, c'est le constat qu'il fait lui-même, ne mène qu'au désespoir. Alors est-ce cela, profiter de la vie que Dieu nous donne? Mais y a-t-il au moins une justice? Avons-nous le pouvoir de faire autre chose que de profiter des bonnes choses de la vie? Et exprimer notre révolte a-t-il même un sens? C'est vrai que l'Ecclésiaste met le doigt sur un point sensible. Dans l'Ancien Testament, il est un des auteurs, avec Job, à mettre en question la théologie de l'époque. Hein, c'est la théologie de la rétribution. Alors la rétribution, ça veut dire que les bons sont récompensés et les méchants sont punis. Alors non, faux, dit-il, ce n'est pas ce qu'il voit. Bien au contraire, comme il l'exprime au verset 12 de notre chapitre, où il dit « Que le pécheur fasse le mal 100 fois, alors même il prolonge sa vie. » c'est dur parce qu'à l'époque, les Israélites ne croient pas à une vie après la mort. La mort, c'est le Sheol, c'est fini. Tout se joue ici-bas, et c'est sur cette terre que Dieu récompense les bons et punit les mauvais. D'ailleurs, ça veut tout dire, l'Ecclésiaste dit au verset 4 du chapitre 9, « Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. » Et Dieu sait si les chiens n'avaient pas très bonne presse à l'époque. Alors difficile dans ce contexte de continuer à croire, comme le fait l'Ecclésiaste au verset 12 et 13 de notre chapitre, qu'il y aura du bonheur pour ceux qui craignent Dieu, mais qu'il n'y aura pas de bonheur pour le méchant. N'essaye-t-il pas de se convaincre lui-même pour ne pas désespérer totalement? Mais il y a pire, si l'on peut dire. C'est le roi qui est garant de la justice, et c'est lui qui devrait la faire respecter. Or, l'Ecclésiaste constate que l'injustice persiste et que le souverain, lui, fait ce qu'il veut. Le pouvoir est donc du côté des oppresseurs. Est-ce une fatalité? Les commentaires les plus anciens que j'ai pu consulter mettent l'accent sur les limites de ce qui est acceptable pour le croyant et sur la nécessité, dans certains cas, de l'objection de conscience. Ils font référence entre autres à Daniel et à ses amis, confrontés au décret d'un roi mégalomane. Mais il faut ensuite faire confiance au jugement divin. Et celui-ci ne se manifeste pas toujours immédiatement, comme dans le cas de Daniel et de ses amis. En tout cas, l'Ecclésiaste, lui, semble avoir de la peine à se contenter d'un hypothétique jugement dernier qui récompenserait à ce moment-là les bons. Alors, se révolter contre le roi, peut-être, c'est une chose, mais finalement, comment devient-on roi? Eh bien, à l'époque, parce que Dieu l'a voulu. C'est en tout cas ce qu'on croyait. Est-ce alors Dieu lui-même qui est injuste? C'est bien cette question que posent l'Ecclésiaste et Job. Et c'est une question qui est toujours actuelle, je pense. Comment Dieu, qui est tout-puissant et infiniment bon, peut-il laisser faire? Laisser faire la guerre en Irak, en Syrie et ailleurs, des attentats tout près de chez nous, l'épidémie Ebola, la maladie de proches, les tsunamis, la haine raciale. C'est une question récurrente, même chez nous au sein de notre Église. Alors il semble que même aujourd'hui, les voies de Dieu semblent rester totalement impénétrables et le sage n'a pas de solution à proposer. Y a-t-il une porte de sortie pour nous? Faut-il se révolter contre Dieu? La question qu'on peut se poser, c'est s'il y a finalement une sagesse pour notre temps, pour le temps d'aujourd'hui. En y réfléchissant et dans les lectures que j'ai pu faire, j'en arrive plutôt à la conclusion que c'est probablement notre façon de voir Dieu qui doit être remise en question, en tout cas celle de l'Ancien Testament. Parmi d'autres, la théologienne française Marion Muller-Collard pointe peut-être vers une solution. Elle pose une question. Pouvons-nous vraiment dire que tout ce qui arrive à une personne ou à un peuple est juste ou injuste? Et si nous le faisons, ne sous-entendons-nous pas qu'il y a une intention derrière chaque événement et que cette intention est due à Dieu directement? S'il n'y a pas de rétribution directe du bien et du mal que nous faisons, cela pourrait nous amener assez rapidement à la conclusion que Dieu est un tyran et qu'il est méchant, hein, s'il est derrière chaque chose qui se passe directement, et peut-être même des fois un peu sadique. Eh bien, je suis reconnaissant de pouvoir vous apporter cette prédication quelques semaines après Noël, parce que je crois que Jésus, dont nous fêtons la naissance ce jour-là, est le chemin de vie. Comme le dit Marion Muller-Collard, Dieu n'est pas du côté du pouvoir absolu. Mais en la personne de Jésus, il prend part à la vulnérabilité de notre humanité, en se réjouissant avec nous et en souffrant parmi nous. Et la vraie nature de Dieu est là. Jésus a vécu une vraie vie d'homme, faite de moments miraculeux, dans tous les sens du terme, hein, de belles rencontres, mais également d'échecs et de temps de doutes. En plus de cela, bien sûr, il nous a montré le chemin de l'amour et du pardon qui nous permet de sortir des différents cercles vicieux de nos vies. Alors, puisque Dieu prend totalement part à notre humanité, l'Ecclésiaste a sans doute un peu raison d'affirmer que nous avons le droit de profiter de ce qu'il nous donne. Cela ne veut bien entendu pas dire que nous ne devons pas nous préoccuper de tout ce qui se passe autour de nous et ne pas nous engager dans la société qui nous entoure et rester les bras croisés, alors que, comme le dit l'Ecclésiaste, le mal et l'oppression dominent toujours. Et ce mal, il peut paraître particulièrement évident ces jours. Les choses ont donc changé depuis l'Ecclésiaste. Dieu s'est approché de nous et nous pouvons mieux le comprendre. Il peut nous rendre plus sages, peut-être, mais comment ? Et comment appliquer cette sagesse aujourd'hui ? Il me semble que aujourd'hui, nous sommes passés du pouvoir absolu du roi au pouvoir absolu du moi. Hein, c'est 500 millions de petits Chinois, et moi, et moi, et moi, comme le chantait Jacques Dutronc. Moi d'abord, et tant pis pour les autres. Et le manque de gratitude et de reconnaissance pour tout ce que nous avons est à mon sens une des tares de notre temps. Nous voulons toujours plus, nous aimerions aller toujours plus loin, plus vite, et dans une course effrénée pour rester à niveau avec nos voisins et nos amis. Alors oui, profitons de la vie, prenons du bon temps, mais pas seulement, et pas n'importe comment. Nous avons beaucoup, eh bien partageons. Mettons l'accent sur la solidarité, les valeurs humaines. Relevons ce qui est positif avant de nous plaindre de ce que nous n'avons pas. Mais n'ignorons pas la souffrance et la pauvreté chez nous et au loin, et agissons. C'est d'ailleurs ce que nos prédécesseurs dans la foi ont fait. Sans leur travail et leur combat, bien des institutions dont nous ne pourrions plus nous passer aujourd'hui, les écoles, les hôpitaux, les EMS, n'existeraient pas. Mais finalement, et c'est la dernière question que je me suis posée, puisqu'on parle du rapport à la politique aussi, peut-on être sage en politique ? S'engager en politique pour faire bouger les choses. Vraiment ? Un chrétien peut-il même être un témoin dans ce domaine ? Et d'abord, les chrétiens doivent-ils prendre le pouvoir ou au moins y participer ? Peut-être qu'aujourd'hui, le mal et l'oppression ne sont-ils pas assez présents ici en Suisse pour nous faire bouger et nous faire agir ? C'est vrai que nous vivons dans des sociétés où ne règne plus un monarque au pouvoir absolu. Théoriquement, c'est même nous qui, en tant que membres du peuple, dirigeons notre pays, n'est-ce pas ? Alors, dans un contexte de démocratie participative comme celui dans lequel nous vivons, toutes les forces politiques, tous les avis peuvent finalement s'exprimer. Certains parlent même de consensus mou. Mais à mon avis, ce contexte qui permet à chacun de donner son avis donne aussi tout son sens à une participation des chrétiens au pouvoir. Évidemment, il faut se poser la question du but et des ambitions qui nous animent. Suis-je à une place d'autorité par ambition personnelle pour en tirer du profit ou au contraire pour le bien commun ? Ces questions, je pense que tous les chrétiens engagés en politique se les sont posées avant de s'engager. Cela dit, je suis convaincu qu'aujourd'hui, en tant que chrétien, vivant dans une société post-chrétienne, nous nous devons de mettre l'accent, où que nous soyons d'ailleurs, sur les valeurs qui nous guident. L'amour, le pardon, la compassion, la solidarité. Excusez-moi. Tout ce dont nous avons besoin, ce que nous faisons ou ce que nous sommes n'a pas une valeur marchande et n'est pas commercialisable. Nous devons réaffirmer que nos valeurs fondamentales sont d'abord des valeurs humaines et non pas matérielles. Alors vous me direz, au niveau local, comment cela se passe-t-il ? dans l'action de la municipalité au sein de laquelle je travaille. Bien, pour nous, cela veut par exemple dire tenter de transformer la ville dans laquelle nous vivons en un lieu plus convivial, où les habitants peuvent mieux se rencontrer, créer des liens pour retrouver un véritable esprit communautaire. Je vous assure que pour y arriver, ce n'est pas si simple que ça. Évidemment, nous aimerions que ça se voie dans nos projets, mais pour que ça arrive, on ne peut rien faire tout seul, évidemment. Il faut la participation de chacun. Alors, les chrétiens actifs en politique ne vont certainement pas évangéliser leurs administrés, ni transformer le monde d'un coup de baguette magique. Ce n'est pas possible. Mais ils pourront contribuer, dans un certain sens, à garder l'Église au milieu du village. Elle a tendance à partir un peu en marge, hein, dans les zones industrielles même, des fois. À titre personnel, je me pose souvent la question de savoir si je suis toujours adéquat dans mon engagement, si je suis toujours le représentant que Dieu a voulu que je sois. Un tel engagement politique ou une telle vocation, si on peut l'appeler ainsi, n'est évidemment pas fait pour tout le monde. Mais l'Église est un corps vivant et Dieu nous appelle chacune et chacun à trouver l'endroit où nous pourrons aller et être le mieux ses représentants. J'en arrive à la conclusion. Après avoir étudié ce chapitre, pouvons-nous aujourd'hui encore suivre les conseils de l'Ecclésiaste? La réponse, c'est oui et non. Oui, rendons grâce à Dieu pour tout ce qu'il nous donne chaque jour et profitons de toutes ces bonnes choses. Mais mettons-nous aussi à faire humblement notre part pour construire un monde qui ressemble plus à ce que notre Créateur aimerait qu'il soit. Nous pouvons et nous devons même nous révolter contre le mal et l'injustice qui règnent dans notre monde. Mais grâce à Jésus, nous n'avons plus besoin de nous révolter contre Dieu. Nous pouvons répondre à son amour en nous battant avec le Christ contre le mal, témoigner du bien, en étant des témoins, que ce soit par un engagement politique, associatif, dans l'Église, bien entendu, et auprès de nos voisins ou ailleurs. Alors tout à l'heure, nous allons partager la Sainte Cène, et à cette occasion, nous allons aussi manger, boire et nous réjouir ensemble. Nous pourrons le faire sans peur, avec la conviction que le Christ a vaincu le mal et qu'il nous a libérés pour le servir lui et servir nos contemporains. Amen.